Conférence privée pour le père Philippe à Saint-Joseph, le 29 mars 1987.
Divine, ce peuple qui génération. Le peuple d'Israël était marqué pour adorer Dieu. C'est sa mission. Il est fait pour adorer Dieu. Et le Pharaon veut se servir de ce peuple pour son efficacité. Je crois ça tellement important parce que c'est toujours la même lutte. Les hommes veulent se servir des hommes pour une pure efficacité. C'est ça qu'ils veulent faire. Et Dieu nous marque d'une manière unique pour lui. Il faut que nous lui soyons consacrés. L'adoration consacre, il ne faut pas l'oublier. C'est la première consécration, puisque c'est le lien premier avec Dieu, pour être tout à Dieu. Et au fond, les luttes, dans ce qu'elles sont de tout à fait premier, c'est toujours cet aspect de l'efficacité humaine, sous toutes ses formes. Et puis ce grand mystère de l'adoration, ce grand mystère de l'offrande, de toute la vie de l'homme à Dieu. Il offre sa vie à Dieu pour reconnaître que Dieu est premier, mais c'est Dieu premier servi. Et c'est dit avec force, et chaque fois que nous adorons, c'est ce que nous faisons et que nous proclamons au plus intime de notre cœur. Nous brûlons le temps qui pourrait très bien se traduire par le travail. Grande efficacité. Nous le brûlons pour Dieu. Et le témoignage premier d'une vie monastique et d'une vie religieuse, c'est de proclamer ce primat absolu de l'adoration au-dessus de tout le reste. On comprend que dans notre monde d'aujourd'hui, combien c'est nécessaire. Et dans la mesure où on vit cela, on libère l'homme. Du pharaon. La grande libération, c'est l'adoration. C'est reconnaître ce primat de l'amour et de l'amour divin sur nous. Cette Pâque instituée par Moïse, avec un côté très particulier, l'ange exterminateur. Je ne sais pas si l'ange exterminateur est toujours présent chaque fois qu'on fait un acte d'adoration. C'est possible. On ne le voit pas, mais c'est possible. Parce que là, on est en face de quelque chose de si important. L'autorité de Dieu et le pouvoir de coercition qui se manifeste de cette manière si étonnante avec l'ange exterminateur qui, tous les premiers nés, sont offerts, sont tués. C'est très extraordinaire de voir cela, parce que c'est peut-être un des lieux où on voit le mieux la différence entre l'autorité de Dieu. Quand vous adorez, vous reconnaissez l'autorité souveraine de Dieu sur vous. Et l'adoration, c'est donc une... on coopère avec Dieu. On entre dans ce lien particulier avec Dieu. C'est l'alliance fondamentale et première, l'adoration. Une alliance d'amour, puisque tout acte d'adoration est un acte d'amour. C'est une alliance d'amour que nous réalisons avec Dieu, au sens très fort et très profond. C'est une alliance d'amour qui fait qu'on s'offre intérieurement. On offre à Dieu toute sa vie. Une espèce de mort mystique dans l'adoration. C'est pour ça que l'adoration nous libère de toutes les contingences extérieures. Quand on a de la peine à obéir, on fait un acte d'adoration. Et à partir de là, c'est facile d'obéir. Puisqu'on a tout donné. Alors, un acte particulier, c'est facile. Un acte particulier très difficile à faire quand, de fait, on n'a pas tout donné. Actuellement, mais l'adoration permet d'actuer ce don. C'est pour ça que c'est si important. Les 7 actes d'adoration par jour.
Une adoration tout aimante.
Il veut glorifier le Père en s'offrant. Et en s'offrant, il se donne à nous. C'est là l'aspect génial de la sagesse divine. De faire que le premier-né des hommes s'offre tout à Dieu. Alors là, on peut dire, cette parole si forte de saint Thomas, la partie principale, c'est le tout. La partie principale de l'humanité, c'est le premier-né. Et c'est Jésus. Et c'est toute l'humanité qui, en Jésus, s'offre au Père. À la scène, c'est une réalisation anticipée de la croix. Et quand je dis une réalisation anticipée de la croix, c'est-à-dire c'est la réalisation de la croix, substantiellement. C'est le mystère de la croix qui se réalise selon un mode symbolique, mais réel, puisque c'est un symbolisme divin. C'est assez extraordinaire que Jésus ait voulu ce double langage pour nous. C'est presque toujours comme ça que le Saint-Esprit agit. Nous avons, nous, la nuque raide. On a tellement de peine à comprendre les exigences de l'amour. Les exigences de la logique, on les comprend tout de suite. Mais les exigences de l'amour, c'est tellement difficile. On a la nuque raide, c'est là où on a la nuque raide. C'est qu'on comprend toujours l'amour en ramenant l'amour à notre conditionnement humain. Ce qu'on peut faire, mais c'est pas l'amour justement. Ce qu'on peut faire, c'est autre chose, c'est une conséquence. Alors Dieu a voulu ce double langage. Et je crois que c'est très important de bien comprendre cela. Et ça continue un peu ce que nous disions ces jours-ci. Il y a le langage de la parole et il y a le langage des sacrements. Et Dieu a voulu cela, que son don total au Père puisse s'exprimer pleinement à la croix. C'est sûr. Mais avant la croix, c'est pas une répétition. Ça n'aurait pas de sens dans l'ordre de l'amour. C'est une surabondance. C'est très différent. Une répétition, c'est fatigant. Tandis que la surabondance, ça appelle toujours la surabondance. Et la scène, c'est de cet ordre de la surabondance. Il a voulu anticiper la hâte de l'amour. L'amour anticipe tout. C'est la justice qui n'anticipe pas. On paie ses dettes au moment où on est bien obligé de les payer. On attend le dernier moment. C'est net pour les impôts. Tandis que l'amour anticipe, c'est extraordinaire parce qu'il est au-delà du temps. Dépasse le temps. Et alors il y a ce geste d'anticiper le mystère de la croix. On n'y pense pas assez quand on vit le mystère de la messe, le mystère de l'Eucharistie. On ne pense pas assez à cette hâte vécue dans le cœur de Jésus quand il a institué l'Eucharistie. La première scène est toujours présent dans chaque Eucharistie. Il y a donc toujours cette hâte du cœur de Jésus d'anticiper l'offrande de la croix pour mieux nous faire comprendre que tout ce mystère de la croix est un mystère de surabondance d'amour. au-delà de la justice. La justice est présente, c'est sûr. Jésus accepte de porter toutes les conséquences du péché, comme agneau. Mais c'est beaucoup plus que cela. Ça va beaucoup plus loin que cela. C'est une exigence d'amour. Vous comprenez bien que c'était uniquement une exigence de justice. Un seul acte d'obéissance de Jésus au Père aurait suffi pour satisfaire pour toutes les fautes de l'humanité. Une seule goutte de sang, un seul acte d'adoration aurait suffi. Et on voit comment le mystère de la croix s'est réalisé. Pour bien te faire comprendre cette surabondance de l'amour, cet aspect excessif de l'amour, excessif pour notre raison humaine, excessif par rapport à la justice, par rapport au droit de la justice, et à ce dépassement. Et il a fallu que la croix soit anticipée divinement, dans un contexte tout à fait différent, le contexte familial, d'un repas religieux familial. La Pâque ancienne, la première Pâque, est une préparation. C'est une préparation, une disposition qui préparait la famille humaine, le peuple d'Israël, à cette nouvelle Pâque. Et dans cette nouvelle Pâque, qui se fait en toute hâte, puisque la Pâque doit se faire en toute hâte, c'est la hâte de l'amour, c'est pas la hâte de la peur de l'ange exterminateur. L'ange exterminateur n'est plus présent. Ou si vous voulez, l'ange exterminateur jouera un autre rôle, tout à fait autre. C'est Jésus qui s'offre lui-même pour glorifier le Père et nous sauver. Et il s'offre sous ce mode symbolique du pain et du vin. Il a pris cela pour nous faire mieux comprendre qu'il fallait que le grain de blé tombe en terre, meure, pour porter tous ses fruits. Lorsqu'il s'agit du pain, le grain de blé est broyé par l'art humain pour être utilisé comme nourriture. C'est la dernière finalité du grain de blé. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a deux finalités du grain de blé? Le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour la fécondité. Et le grain de blé qui tombe dans les mains des hommes et qui est broyé. C'est plus la terre, c'est les mains des hommes. Et qui est broyé pour former le pain. Et Jésus prend ce pain. Et mais c'est lui-même qui fait la comparaison des deux. Et c'est en comparant les deux qu'on comprend mieux pourquoi il fallait, à côté de la croix, l'Eucharistie. Et que les deux étaient nécessaires pour nous, parce que c'est deux langages différents. La croix est tout entière ordonnée vers la gloire. Et l'Eucharistie, qui nous donne la croix, substantiellement, réellement, mais d'une manière symbolique. L'Eucharistie, c'est le viatique. Chaque messe, c'est le viatique. C'est donc l'attente ultime de la venue du Christ. Et c'est l'attente ultime de la venue du Christ qui est inscrite pour nous dans le temps. C'est important de comparer toujours la première Pâque et la nouvelle Pâque et ce double langage par lequel Jésus nous fait comprendre la hâte de son cœur, la hâte d'amour de son cœur pour glorifier le Père et nous sauver. En se donnant totalement au Père, c'est-à-dire en s'offrant et en se donnant à nous. Là, nous comprenons comment les deux préceptes de charité sont un. Il faut aller jusque-là pour comprendre l'unité de l'amour à l'égard du Père et à l'égard du prochain. L'amour à l'égard du Père réclame l'adoration, toute aimante, toute contemplative. Et l'amour à l'égard du prochain réclame d'être donné comme pain. Et Jésus le vit dans son cœur, profondément, dans sa charité. Lui, le bien-aimé du Père en qui le Père a mis toutes ses complaisances, répond à cette complaisance du Père par ce don total de tout lui-même. Du reste, je crois qu'on ne peut pas répondre à la complaisance du Père autrement que par un don total de soi. Holocauste d'amour. En étant victime d'amour qui glorifie le Père, il est notre pain, il se donne à nous. C'est cette invention à laquelle il faut tout le temps revenir, et je crois qu'il y a une grâce particulière quand on vit une première messe. C'est pour ça que nous nous y préparons. Il faut tout de suite regarder la scène. Ça, c'est la première messe de Jésus. Et célébrée par Jésus. Et c'est quelque chose de si extraordinaire, si merveilleux, que Jésus ait inventé ça dans sa sagesse. Pour nous faire comprendre la croix. C'est vrai, l'Eucharistie nous aide à comprendre la croix. C'est un langage particulier de Dieu. Pour nous faire entrer dans le mystère de la croix. Et le mystère de la croix, c'est pour nous faire entrer dans la gloire. C'est pour nous faire vivre de sa filiation d'amour à l'égard du Père. C'est pour que nous vivions ce lien de filiation d'amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Quand on a reçu le poids de la complaisance du Père, le poids de son amour, quand on est aimé de cette manière par le Père, il n'y a qu'une seule réponse. L'offrande totale de tout. Ça, c'est l'exigence de l'amour. L'amour appelle l'amour. La mesure même de l'amour, c'est l'amour. Et donc, quand on est aimé, de cette manière, comme fils bien-aimé, comme le bien-aimé, il n'y a pas d'autre manière de répondre. En toute liberté, à l'intérieur de l'amour. Et il y a la double réponse, la scène et la croix, qui ne fait qu'une seule réponse. comme les deux préceptes d'amour ne font qu'un. J'allais dire pour le Père, la croix suffit, et pour nous, il faut l'Eucharistie. Alors vous comprenez les doubles préceptes, l'amour à l'égard du Père et l'amour à l'égard de nous, qui sont liés et intimement liés. Mais c'est vrai, les sacrements, c'est dit, et l'Église le répète, et saint Thomas l'avait dit avant le Concile de Trente, les sacrements propter homines. Les sacrements, c'est pour les hommes, c'est pour Dieu, pour glorifier Dieu, c'est sûr. Et c'est le propter homines qu'il faut souligner. Glorifier le Père. Et c'est à la suite de cette Pâque que Jésus dit: faites ceci en mémoire de moi. Jésus n'a pas dit ça du haut de la croix. Faites ceci en mémoire de moi. C'est là aussi très mystérieux, ces deux aspects. Jésus ne peut pas dire, quand il est crucifié, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit justement de sa mort, qui est unique. Il s'est offert une fois à la manière sanglante de la croix. Et quand il s'agit de l'Eucharistie, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Vous savez bien ce grand problème qui a été posé avec une telle acuité avec Luther. Il est dit dans l'Écriture qu'il s'est offert une seule fois. Donc il n'y a qu'un seul sacrifice. On pourrait ajouter, mais Jésus a ajouté: faites ceci en mémoire de moi. Et Jésus, en faisant cela, institue le mystère des sacrements. Pour la surabondance du sacrifice de la croix pour nous. Et c'est vrai, c'est une surabondance. Si nous regardons les sacrements dans une lumière de justice, on ne comprend rien. Si on les regarde dans la lumière de la surabondance de l'amour, alors on découvre qu'en effet, c'est nécessaire que ce soit redit indéfiniment à travers le monde entier, puisque c'est la proclamation de la surabondance de l'amour. Chaque messe, c'est ça. Revenir à ce moment si important que nous avons vécu hier et que nous vivrons aujourd'hui durant cette première messe. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus, en disant cela, institue un ordre nouveau, le sacrement de l'ordre. C'est un ordre nouveau, le sacrement de l'ordre. C'est l'ordre par excellence. Un ordre d'amour. Un ordre d'amour en vue de l'Eucharistie. Pour l'Eucharistie. Et notre pape actuel l'a souligné plus d'une fois. Il a raison. Parce que on risquait d'oublier ce lien de nécessité entre l'Eucharistie et le sacerdoce ministériel. On risquait de comprendre le sacrement d'ordre, le sacerdoce ministériel, par des activités plus humaines. L'enseignement, le gouvernement, C'est beaucoup plus humain. Et on oubliait que l'activité propre du sacerdoce chrétien, du sacerdoce ministériel, c'était le mystère de l'Eucharistie. Toute la journée du prêtre prend toute sa signification au niveau sacrement dans le mystère de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est tout entier ordonné à la croix glorieuse, au mystère de la croix qui s'achève dans la gloire. Vous voyez, comme le prêtre, par son sacerdoce, entre au cœur de toute l'économie divine, ou au sommet de toute l'économie divine. C'est très impressionnant cela. Alors, regardons dans cette lumière ce qui caractérise ce sacerdoce chrétien. Représente bien dans l'Église l'alliance nouvelle dans le sang et le corps du Christ. Quand c'est dans le sang et le corps du Christ, j'allais dire, nous comprenons ce don d'amour extraordinaire, merveilleux. Jésus se donne comme pain et vin pour être notre nourriture et notre poisson. Pour nous faire comprendre que son amour est absolument nécessaire à notre vie. C'est le pain et que c'est la surabondance. Il se donne comme pain. Il aurait pu très bien se donner comme pain et vin directement. Directement, comme il a donné la manne. Il aurait dû dire à 6 heures du matin, soyez là, tous les matins, vous aurez la nouvelle manne. Si vous arrivez une demi-heure en retard, la toute-puissance de Dieu aurait tout pris. Ça aurait pu très bien se faire comme ça. Au point de vue réglementation, ça aurait été mieux. Ça aurait exigé les chrétiens d'être très à l'heure. Ça, pas à dire, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Pour manifester l'impérium de Dieu, pour manifester la toute-puissance de Dieu, il y avait Dieu des armées. Ça, c'est bien. Quelque chose de très, très net. Puissance de Dieu se serait manifestée d'une force extraordinaire. Vous voyez, une nouvelle manne. Il aurait pu faire ça. Puisqu'il l'avait déjà fait une fois, il aurait pu la renouveler. Il n'a pas voulu cela. Il a voulu qu'il y ait un pauvre homme choisi par lui, qui soit revêtu, au plus que revêtu, un pauvre homme qui puisse agir in persona Christi, comme dit saint Thomas, comme dit le Concile de Trente, comme le répète le Saint-Père. Et nous devons le répéter, mais non pas de l'extérieur, en comprenant la force de cette parole. C'est pas seulement agir de la part du Christ comme un envoyé. C'est plus. Ce qui fait comprendre du reste l'intériorité de la grâce sacerdotale. Agir in persona Christi, vous voyez, c'est bien la personne. Vous retrouvez la personne. On ne dit pas agir in anima Christi, in persona Christi. Agir dans la personne du Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire, agir dans la personne du Christ? Extérieurement, rien n'est changé. Quand le prêtre prononce les paroles de la consécration, il les prononce avec sa voix, il les prononce avec son intelligence, avec sa foi, sa charité, son espérance. Et c'est pas suffisant de dire ça. Il les prononce in persona Christi. Mais il y a là quelque chose d'unique. C'est pour ça que on peut pas expliquer. Prenez les analogies. Toutes sont vacillantes. Aucune analogie ne permet d'entrer dans ce mystère qui est un sommet de l'Alliance Nouvelle. C'est bien un sommet de l'Alliance Nouvelle. Lié directement à ce don que Jésus fait de son corps et de son sang. C'est extraordinaire, voyez. Jésus a voulu que le mystère de l'incarnation dépende du fiat de Marie. Et Jésus veut que le don de son corps et de son sang dépend du fiat du prêtre. Marie, ça se comprenait encore, elle était immaculée. Et puis il n'y en a qu'une. Tandis que les prêtres, il y en a tellement. Dites-vous bien, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, parce que quand on est dans un pays de crise de vocation, on oublie ça. Et c'est à Rome qu'on m'a dit ça. Qu'il y a plus de prêtres actuellement dans l'Église catholique qu'avant le Concile. Dites-vous bien ça. Donc quand on parle de la crise, c'est les pays latins. Pierre, Jacques et Jean. À côté aussi, un petit peu à côté, mais c'est avant tout ça. C'est la Méditerranée. Oui, Pierre, Jacques et Jean, oui bien, Pierre c'est l'Italie, c'est sûr, il est à Rome. Jacques c'est l'Espagne, on ne peut pas nier. Et Jean c'est toujours d'une façon souterraine la France. Parce qu'il faut passer par Polycarpe, et c'est toujours d'une façon souterraine. Il ne faut pas être autrement, du reste. C'est très curieux, les trois. Je me suis toujours demandé, c'est pas dans Saint-Thomas, hein. C'est quand même très curieux de voir ça. Il faut le voir, ça fait partie de la providence de Dieu. Que Dieu ait voulu, que Jésus ait voulu que le don de son corps et de son sang soit lié au fiat d'un homme. Premier fiat de l'homme, quand il accepte d'être prêtre. Et il accepte librement. Et il accepte pour répondre à l'appel de Jésus qui veut se donner comme pain et vin. C'est pour ça qu'on est prêtre. Avant tout et en premier lieu, c'est pour ça. C'est pour que le peuple de Dieu, c'est pour que la famille de Dieu, qui est l'Église, ne manque pas du pain et du vin, ne manque pas de l'Eucharistie. C'est pour que l'Eucharistie soit donnée. C'est pour ça. En premier lieu, c'est pour ça. Faut pas l'oublier, on est lié à ça. Et Jésus a voulu que ça se fasse par le consentement, le fiat d'un homme ou des hommes. Pourquoi ça? Puisqu'il aurait pu le réaliser autrement. Je vous dis, la toute-puissance de Dieu aurait été mieux manifesté si c'était réalisé à la manière de la manne. si tu as voulu le consentement des hommes, c'est comme pour Marie. C'est pour ça que le sacerdoce et Marie sont si liés. Ils sont liés de cette manière-là. Le prêtre peut dire avec Marie, oui, je comprends ce poids d'amour de Jésus pour nous. Puisque son don, dans ce qu'il a d'ultime, veut passer par le cœur de l'homme, le cœur du prêtre, le cœur et l'intelligence du prêtre, comme il est passé par le cœur et l'intelligence de Marie. Il y a là un très très grand mystère de cet amour de Jésus. De cet amour très unique de Jésus, conditionner son don au fiat d'un homme, ça fait comprendre la confiance qu'il met en Marie. Ça, on la comprend tout de suite. Mais la confiance qu'il met dans ces pauvres hommes pécheurs, c'est vrai. Recevoir le sacerdoce, ça doit nous sanctifier, mais ça ne nous sanctifie pas immédiatement. C'est bien évident. Ça doit nous sanctifier, c'est un appel à la sainteté. Ça ne nous sanctifie pas immédiatement. On n'est pas transformé immédiatement. Il y a une grâce qui demande de prendre toute la pâte humaine. Mais ça se fait progressivement. Et l'homme, prêtre, reste avec ses fragilités, avec ses limites. Pourquoi Jésus a-t-il voulu cela? C'est parce qu'il est amour, parce que Dieu est amour, et que la toute-puissance est au service de son amour, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que la toute-puissance se cache de la manière la plus extraordinaire qui soit. Elle se cache à travers ces pauvres hommes que sont les prêtres. La toute-puissance de Dieu se cache à travers eux pour que l'amour puisse surabonder. Agir in persona Christi, c'est agir à travers l'amour et la sagesse du Christ. C'est agir dans la lumière de sa sagesse et en laissant son amour tout prendre. C'est être le plus proche possible de son cœur, de sa contemplation, de ce qu'il vit au moment de la scène, de ce qu'il vit à la croix. Persona Christi, faire que deux personnes ne soient plus qu'une personne, d'une manière sacramentelle. Alors c'est là, il faut bien insister. D'une manière sacramentelle. C'est vrai que quand le prêtre agit, c'est-à-dire quand le prêtre agit comme prêtre, quand il célèbre l'Eucharistie, quand il confesse et qu'il pardonne, il est un dans la personne du Christ. Il peut l'être sous ce mode sacramentel. Il peut l'être sous cette emprise tout à fait particulière que représente le point de vue de la sacramentalité. Ce symbolisme divin qui réalise ce qu'il signifie. Et le prêtre est entièrement saisi par Jésus. La personne du Christ, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Et c'est le Verbe qui s'est fait chair qui s'empare d'une manière sacramentale. manière symbolique, mais réelle, de l'homme, dans tout ce qu'il est, puisque c'est une persona. Pour que, de fait, ces paroles de la consécration ne soient plus ses paroles, ce soit celles de Jésus à l'intérieur de ses paroles. Quand le prêtre prononce les paroles de la consécration, c'est lui, mais c'est Jésus en lui qui prononce ses paroles. Vous voyez le mystère de la parole et de la personne. Comme c'est étonnant. Et là, vous le saisissez dans, je crois, dans le moment ultime et dernier. La signification de ces paroles, signification mystique. Ceci est mon corps. Oui, extérieurement, historiquement, c'est bien ce pain, du moins les apparences de ce pain, ce qu'on voit, mais réellement, c'est le corps du Christ. Voilà la signification des paroles divines de la consécration. Et ce sont des paroles divines, c'est Jésus qui les prononce à travers son instrument, celui qu'il a choisi. Et le sens de ses paroles, c'est directement la présence du corps du Christ à travers ce qui se voit, ce qui se touche, les apparences du pain et du vin. On ne peut pas séparer les deux. Vous voyez, le sens historique et le sens mystique, ils sont intimement liés et inséparablement liés. Ceci est mon corps. Vous voyez la force alors de et. Du verbe être pris dans cette affirmation. Au niveau de l'existence, au niveau de l'exister, c'est le corps. Et au niveau des apparences, c'est ce qu'on avait vu avant. Rien n'est changé. Rien n'est changé extérieurement. Et tout est changé intérieurement, substantiellement. C'est ça le prêtre. C'est celui qui peut dire ça. In persona Christi. Sa personne, métaphysiquement, est la même qu'avant. Et pourtant, divinement, d'une manière sacramentelle, il peut réaliser une parole nouvelle. Qui n'est plus sa parole uniquement, c'est sa parole, mais elle est complètement prise, assumée par le Christ, et par le Christ qui consacre lui-même. Ceci est mon corps. C'est pas le corps du prêtre, c'est le corps de Jésus. Réfléchissez bien, puisque c'est là où on saisit le mystère du sacerdoce chrétien. C'est à partir de cette opération, et cette opération, c'est une parole extraordinaire, comme le mystère de l'Eucharistie donne une importance. Qui est puissance de Dieu est présente en vue d'un don d'amour. C'est le plus grand des miracles qui s'opère pour que l'amour soit pleinement donné à travers le corps de Jésus, à travers le sang de Jésus. Il y a la parole créatrice et il y a la parole de la consécration. La parole créatrice, que c'est que la lumière soit et la lumière fut. Et la parole consécratrice du Christ, ceci est mon corps. Et nous touchons là comment la toute-puissance de Dieu porte cet univers et comment la toute-puissance est au service du don du corps et du sang du Christ. Et c'est à partir de là qu'on doit saisir ce qu'il y a d'unique dans le sacerdoce du Fils bien-aimé. Et c'est tout le temps là qu'il faut revenir. Puisque c'est là où, de fait, nous touchons l'opération propre du prêtre. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen.